étions produits pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la Frapna.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les chroniques du hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur fréquence 7. Il est bon de retrouver le micro des chroniques après un petit interlude printanier. Nous revenons aujourd'hui avec un sujet de la plus haute importance, la ressource en eau. Depuis le 12 mai, presque toute l'Ardèche est en alerte, hormis les bassins Canse, Allier et Loire, qui sont en vigilance, et le bassin versant de la Cèze aval vers Saint-Paul-le-Jeune, qui est en alerte renforcée. Pour en parler, je reçois Edith, chargée de mission eau à la FRAPNA. Salut Edith.
Salut Lorraine.
Pour commencer, peux-tu déjà nous dire ce que ça veut dire concrètement alerte sécheresse? Quels sont notamment les indicateurs?
Les alertes sécheresse correspondent à des mesures de restriction temporaire des usages de l'eau qui sont définies par des arrêtés préfectoraux. Ils sont pris en fonction de la situation hydrique du territoire et basés en fonction des débits de la quantité d'eau dans les cours d'eau. On va avoir différents niveaux d'alerte, la vigilance, l'alerte renforcée et crise. Ces différents niveaux, ils correspondent tous à une situation particulière. Par exemple, pour la situation de crise, donc la plus forte, c'est une situation qui correspond au niveau d'alimentation des cours d'eau où l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine est compromise, où tous les usages de l'eau ne sont pas satisfaits et où le milieu aquatique est fortement affecté. Donc ces arrêtés, ces niveaux d'alerte, sont pris par bassin versant. Donc, par exemple, on peut avoir un niveau pour le bassin versant de l'Ardèche qui sera différent du niveau d'alerte du bassin versant de l'Arieux.
Et donc ces arrêtés prévoient des restrictions d'usage. Est-ce que tu peux nous donner des exemples?
Donc je peux te donner des exemples pour la situation alerte, parce qu'elle concerne actuellement quasiment l'ensemble du bassin versant, du département de l'Ardèche. Donc on va avoir par exemple le remplissage complet des piscines qui est interdit, sauf pour celles qui viennent juste d'être construites. Et les remplissages complémentaires, donc les mises à niveau, sont autorisés qu'entre 20h et 9h. On va aussi avoir le lavage des voitures qui est interdit et des restrictions pour les jours et les horaires d'arrosage des jardins.
Alors il y a quelque chose qui m'interpelle déjà, c'est le manque de communication sur ces restrictions. La plupart des habitants ne sont pas forcément au courant qu'on est en état d'alerte. Quels sont les moyens pour s'informer, mis à part d'aller soi-même sur le site de la préfecture et de voir cet arrêté? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour s'informer?
Effectivement, il y a clairement un manque de communication concernant ces arrêtés, qui sont pourtant très importants à respecter et à faire respecter, puisqu'il s'agit de l'accès de la ressource en eau. Les maires des communes concernées par ces arrêtés reçoivent l'information par la préfecture par rapport au niveau d'alerte, et c'est vraiment un rôle important qu'ils ont de faire le relais et la diffusion de ces informations, et certains le font mieux que d'autres. Sinon, pour se renseigner personnellement, il y a effectivement ce que tu disais, le site de la préfecture, mais il y a aussi un site internet national qui s'appelle Propluvia. Sinon, il y a les syndicats de rivières qui relaient régulièrement l'information. Donc une idée, ça peut être de s'abonner à leur page Facebook.
Ça me fait penser aussi à un autre point qui me semble important, c'est qu'en été, le débit des rivières est déjà au plus bas, alors même qu'il existe un soutien d'étiage qui est même important par les barrages. Et ça peut biaiser encore plus notre perception de l'état critique de nos cours d'eau.
Tu as raison, cette quantité d'eau peut parfois donner l'impression illusoire qu'on n'est pas dans une situation aussi problématique que celle dans laquelle on est réellement.
Bon, il se trouve quand même que les rivières en Ardèche sont plutôt en bon état écologique. Mais quelles vont être les conséquences d'une hausse de la température de l'eau et de la réduction des débits en été, notamment sur la biodiversité, sur la qualité aussi écologique de la rivière ?
Alors, par rapport aux hausses des températures, on va avoir un impact direct sur certaines espèces aquatiques qui supportent mal l'augmentation des températures. Donc, l'exemple auquel on pense le plus rapidement, c'est la truite fario, qui est particulièrement sensible aux augmentations de température. On va aussi avoir un impact qui est indirect, puisque les eaux plus chaudes contiennent moins d'oxygène dissous. Donc plus l'eau va se réchauffer, moins il y aura d'oxygène dissous dans l'eau, et ça peut aller jusqu'à l'asphyxie des milieux et donc des espèces qui y vivent. Et ensuite, l'augmentation de la température de l'eau, ça va avoir pour effet une augmentation de l'évaporation et une baisse donc de la quantité d'eau. Tu parlais aussi de la réduction des débits. Donc le problème le plus grave, ça va être la sec du cours d'eau et souvent la création de trous d'eau où les espèces aquatiques vont se retrouver piégées. Et si le trou d'eau se tarit ou si la température augmente, ça peut être fatal pour ces espèces qui sont piégées. Ensuite, pour les rivières qui ne s'assèchent pas, c'est aussi problématique parce qu'on va avoir un réchauffement de l'eau plus important forcément puisqu'il y a une quantité d'eau moins importante à réchauffer et une concentration des polluants puisqu'ils seront moins dilués que dans une rivière où il y a plus d'eau.
Continuons un petit peu à parler de l'état écologique des milieux aquatiques. Peux-tu nous dire quelques mots sur les fonctionnalités de la ripisylve ? Un mot qui n'est pas connu de tous, donc si tu peux dire déjà ce que c'est la ripisylve.
Donc les ripisylves, la ripisylve, ça correspond à la végétation qu'il y a sur les bords d'un cours d'eau. C'est donc une interface entre le monde terrestre et le monde aquatique, qui va avoir d'abord un intérêt pour les espèces en termes d'habitat. Donc pour certaines espèces terrestres, ça va être utilisé pour se déplacer à couvert, pour boire, pour chasser. On peut penser par exemple aux chauves-souris. On a aussi des espèces qui sont liées à la rivière, qui construisent des abris, qui chassent, qui s'y reproduisent, comme le castor. Et on va avoir des espèces aquatiques qui, là aussi, s'en servent comme habitat, dans les racines notamment. Les racines permettent aussi de filtrer les polluants, donc ils ont un effet épuratoire de l'eau. Et une chose très importante de la ripisylve, c'est qu'elle permet de faire de l'ombrage et donc de maintenir une eau fraîche et de qualité. Donc c'est important, c'est vraiment un milieu qui est important de préserver au maximum.
Bon, on ne peut pas parler de la ressource en eau sans parler des pressions anthropiques, bien sûr, qui vont avoir un effet cumulatif, principalement durant la période estivale. Bon, il y a bien sûr le tourisme qui est l'un des principaux moteurs de l'activité économique du territoire. En 2022, on a notamment compté plus de 15 millions de nuitées sur l'année pour 300 000 habitants ardéchois qui vivent à l'année. Donc l'Ardèche est une destination importante, une destination de nature avec de nombreux loisirs d'eau vive et beaucoup de spots de baignade. L'Ardèche est connue pour sa nature. Donc quelles sont les pressions qui vont être liées à la surfréquentation des milieux aquatiques et surtout quels sont les gestes à adopter pour limiter les impacts et préserver la ressource en eau?
Cette augmentation de la population qui peut être importante selon les communes, ça va avoir d'abord comme impact l'augmentation de la consommation en eau potable. Donc le premier geste à adopter, c'est de faire attention à sa consommation en eau et d'éviter le gaspillage. Ensuite, par rapport vraiment à l'aspect fréquentation des rivières, on a plusieurs préconisations qu'il est important de respecter. Ramasser ses déchets, ça paraît évident, mais c'est pas encore respecté par tout le monde. On peut aussi utiliser des crèmes solaires qui soient minérales. Elles ont moins d'impact sur les milieux aquatiques. Et il y a des activités aussi qu'il faut éviter de faire. La randonnée aquatique, ça consiste à se promener en cheminant dans le lit d'une rivière. Et c'est une pratique qui est très destructrice des milieux par le piétinement. Ça va détruire la végétation aquatique, qui est un support de vie assez important pour les espèces aquatiques. Il va y avoir des destructions de frayères. Donc, les frayères, c'est là où pondent les poissons, certains poissons. Et on va avoir un impact important aussi sur les macro-invertébrés. Donc ça, c'est les mollusques, les larves d'insectes qui vivent sur le fond des rivières et qui sont la base de la chaîne alimentaire. Ensuite, la deuxième activité sur laquelle nous, la FRAPNA, on essaie vraiment de sensibiliser à éviter, donc c'est la construction de petits barrages en galets un barrage en galets n'a pas forcément d'impact important, mais c'est en fait leur multitude qui est problématique parce qu'ils pullulent vraiment pendant la période estivale sur nos cours d'eau. Donc l'impact de ces barrages, de ces petits barrages, c'est le réchauffement de l'eau qu'ils vont engendrer en ralentissant les écoulements. Et ils vont aussi bloquer la circulation d'espèces aquatiques qui ne vont pas pouvoir accéder aux zones qui sont plus fraîches. Et on sait que ça peut être très important pour eux pendant les périodes chaudes. Comme autre préconisation diverse, on peut parler du stationnement. Éviter de stationner là où c'est pas prévu d'éviter de faire du hors-sentier et de privilégier les zones de baignade qui sont officielles parce que ça permet vraiment de concentrer l'impact à un endroit et de ne pas avoir d'impact diffus sur l'ensemble du cours d'eau, ce qui est beaucoup plus problématique. Ensuite, d'éviter la fréquentation nocturne des cours d'eau pour ne pas déranger les espèces. Et pour ce qui concerne la pratique du canoë, c'est d'éviter les périodes où il manque d'eau, où les débits sont faibles. Parce qu'on a remarqué dans les dernières années une pollution plastique avec des copeaux multicolores qu'on retrouve sur les berges des cours d'eau et qui viennent des embarcations qui sont arrachées lors du frottement des canoës sur les rapides.
Quand on entend ça, on se dit qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation. Et on est encore loin d'arriver à généraliser ces préconisations et ces gestes. Pour terminer cette chronique, je voudrais parler justement de l'avenir et du projet Ardèche 2050 qui est porté par le PTB. Donc le PTB qui a lancé cette étude Ardèche 2050 pour comprendre les impacts des changements climatiques sur le bassin versant et élaborer une stratégie d'adaptation cohérente face à ces enjeux. Peux-tu nous en dire plus ?
Déjà, il y a eu une étude qui est donc lancée effectivement par le PTB en 2020 pour essayer de comprendre les changements climatiques, mais aussi les trajectoires du territoire en termes d'usage et notamment vis-à-vis de la démographie ou de l'agriculture. Donc les conséquences attendues sur les milieux aquatiques qui ont été mis en avant par l'étude, c'est une diminution des débits estivaux d'environ 30% avec un allongement de la durée des périodes de bas débit, une baisse significative de la recharge des masses d'eau souterraines et une détérioration de la qualité des eaux des rivières avec l'augmentation des températures et la baisse des débits, qui entraîne donc, comme je l'avais dit, une augmentation de la concentration des pollutions, avec des conséquences sur les usages, donc une augmentation des besoins en eau pour l'agriculture et l'eau potable, des ruptures d'approvisionnement en eau avec l'assèchement de certaines sources, des problèmes sanitaires pour l'eau potable et les eaux de baignade, et une vulnérabilité accrue face aux inondations et aux événements climatiques extrêmes. Et comme tu disais aussi par rapport aux barrages, on aura une dépendance accrue aux dispositifs de soutien d'étiage pour avoir une alimentation en eau potable et pouvoir pérenniser en fait finalement les usages.
Bon, face à ce sombre constat, mais qui était complètement prévisible, hein, on voit bien l'urgence absolue d'agir. Et justement, le PTB a mis en place un programme d'action qui a été établi en concertation avec tous les acteurs du territoire pour mettre en œuvre sur l'ensemble du bassin versant de l'Ardèche ce programme d'action. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets d'adaptations qui vont et qui doivent être mises en place sur le bassin versant ?
On peut prendre par exemple ce qui a été prévu vis-à-vis de l'eau potable. Le scénario tendanciel qui a été établi, c'est une augmentation du nombre d'habitants à l'année et avec une augmentation de l'urbanisation. Et aussi une augmentation de l'offre touristique, même si on aurait un déplacement vers des zones plus fraîches. Tout ça, ça aurait comme conséquence une augmentation des besoins en eau potable. Donc les actions d'adaptation pour l'eau potable qui ont été fléchées dans le programme d'action, c'est d'améliorer l'efficacité des réseaux d'eau potable, donc en réparant les fuites, d'interconnecter les réseaux pour sécuriser la ressource. Ce qui a été fléché, c'est également de réduire les consommations d'eau potable dans les habitations avec la mise en place d'équipements hydroéconomes, du stockage d'eau de pluie, la réutilisation des eaux grises. On a aussi beaucoup parlé de tarification incitative de l'eau. Qu'elle soit progressive, donc en fonction de la consommation que le coût de l'eau augmente, mais aussi saisonnière. Que finalement, des économies d'eau l'été soient plus intéressantes que des économies d'eau l'hiver. Des actions aussi à mettre en place, c'est de la sensibilisation auprès du grand public, mais aussi des scolaires. Et il a été demandé par de nombreux acteurs un encadrement plus important des usages non prioritaires qui sont les piscines par exemple ou l'arrosage des jardins hors potager ou arbres fruitiers.
Bon, ben, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Merci beaucoup Edith d'avoir accepté de parler au micro des chroniques d'Hérisson. Nous on se retrouve le 16 juin pour le tout dernier épisode de la saison. Je serai accompagnée d'Adrien Aymar, mon coéquipier que vous aviez entendu pour la première fois dans l'épisode qui parlait des animaux dans l'histoire. Donc il reviendra pour ce dernier épisode et on sera avec toute l'équipe de Résonance. On se retrouve donc le 16 juin. À bientôt.